Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote.
France Musique. France Musique. Les grands entretiens. Judith Chen.
Bonjour, je suis Alexandre Kantorov, je suis né à Clermont-Ferrand en 1997 et je suis pianiste.
Avec 2 ans d'avance, Alexandre Kantorov entre au lycée Racine à Paris. C'est la première fois qu'il est scolarisé en horaire aménagé. Et là, entouré de camarades également passionnés, se cristallise son désir de devenir musicien.
Voilà, on avait tous ce lien en commun. Et donc, il y avait le premier moment de musique de chambre, le premier partage. Et petit à petit aussi, j'avais l'expérience des premiers vrais concerts. Parce que j'avais jamais fait encore de concert avec public. Et donc, 13-14 ans, c'était en première. J'avais fait un concert. J'avais joué la Fantaisie hongroise de Liszt avec l'orchestre du lycée. Et il s'était passé quelque chose, je me souviens. Parce que le fait de monter sur scène, le fait d'être entouré par un orchestre, le fait de ressentir l'énergie du public, de monter sur un nuage après le concert, cette redescente lente, ces choses-là que j'ai enfin saisies, là, elles m'ont fait vraiment changer. Parce que même encore au lycée, je pensais être dans les sciences, les maths, et donc je savais pas du tout. J'aimais beaucoup l'astrophysique, j'aimais beaucoup... donc j'avais pas du tout tranché. Et ensuite, les premiers petits concerts qui ont suivi au lycée m'ont fait vraiment basculer petit à petit. Et...
Mais vous étiez très en avance aussi. Ouais. C'est aussi une question que je me posais, c'est-à-dire, est-ce que vous vous rendez compte à ce moment-là que peut-être que sur ce plan-là, vous êtes différent?
Bonne question. Je sais pas si je me rends compte que je suis différent, mais c'est vrai qu'au lycée, en tout cas, c'est la première fois que la musique est tellement au centre quand même de nos vies. Donc, effectivement, quelqu'un qui veut vraiment devenir musicien et qui vit beaucoup plus la musique que les autres qui le vivent comme plaisir, comme passe-temps. C'est vrai que là, pour le coup, peut-être, je sentais plus une sorte d'appartenance à clairement à tout un groupe, toute une communauté. Est-ce que je me sentais différent? Je sais pas. Je sais pas si je me sentais différent à ce moment-là, ni au conservatoire non plus. Parce qu'au conservatoire, on a tellement de profils particuliers. Il y a tellement de gens en avance. Il y a beaucoup de gens qui ont des profils, mais tellement variés, qui ont eu tellement d'expériences aussi uniques. Il y en a qui ont passé leur vie à changer de pays. Il y en a qui viennent de... Ouais, chacun a un bagage quand même très personnalisé, je trouve. Et donc, non, on se sent pas différent. Par contre, on sent que peut-être, oui, on est différent, mais ici, on est tous dans le même bateau. Et donc, je vis vraiment plus l'ambiance de la communauté, par contre. Ouais. Le fait de partager cette musique, au moins, ça crée vraiment un sentiment de communauté plus fort. Et oui, au conservatoire, il y avait ça. Et je sais pas si l'âge y jouait. Oui, l'âge, il a dû jouer parce que, bien sûr, un enfant de 15 ans avec des enfants de 18, 20 ans, c'est un peu le petit qui suit, en fait. Et puis, non, il faut qu'il rentre ensuite chez lui plus tôt. Et j'ai toujours eu ce
décalage.
Ce décalage, ouais. J'ai toujours eu cette petite frustration de, mais non, maintenant je suis avec des gens plus grands, donc il faut que je fasse exactement comme eux.
Et ça, par rapport à ça, vos parents étaient,
C'est compliqué. En même temps, ce que je sais pas, est-ce que, oui, bien sûr, pour moi, ça me paraissait très compliqué. Je veux dire, ça me paraissait évident que moi, il fallait que j'ai toute ma liberté. Et aujourd'hui, maintenant, je me dis, ouais, si j'ai des enfants, est-ce que, pareil, dans cette situation, qu'est-ce que je fais, en fait? Et donc, ouais, ils ont dû trouver une balance. Ça me convenait pas toujours, voilà, disons que aujourd'hui, je vois quand même, parmi tous les choix qui me paraissaient durs sur le moment qu'ils ont pris, je vois aussi à quel point ils ont forgé beaucoup de choses qu'aujourd'hui je vois comme des bénéfices et que je profite d'eux, en fait. C'est-à-dire, j'ai effectivement cette avance, elle m'a permis d'aller plus vite et de tout de suite avoir un rapport immédiat au concert, à la scène, et de sauter beaucoup d'étapes. Et aujourd'hui, je suis content de ça. Tous les moments où effectivement ils ont été derrière moi, je vois qu'aujourd'hui, s'ils m'avaient laissé, clairement, j'aurais été un peu plus à la dérive, on va dire. Ils ont gardé quand même une rigueur derrière qui me porte encore. Donc maintenant, non, bien sûr que je changerai pas ce qu'ils ont fait, mais sur le moment, ouais, c'était frustrant, évidemment.
Thank you.
Et ensuite, j'ai intégré le Conservatoire National à Paris. C'est juste la plongée dans le monde musical. Mon professeur Franck Bralet était vraiment le bon professeur à avoir, je pense, parce qu'il avait un rapport au piano où il a voulu s'éloigner de l'instrument, sans que pour lui, c'était pas la priorité sur comment on y arrive. La priorité, c'était la musique en général. C'était transformer une sonate en symphonie et quel
le
instrument
piano
joue
orchestre.
Quoi. Voilà, exactement. Quel instrument joue quoi, comment tu peux obtenir les sons que tu veux, et tout devait passer par l'oreille musicale et l'intention qu'on a. Et ensuite, le piano, tu te débrouilles. Tu trouves un moyen d'y arriver, mais c'est important que dans la tête, tu saches ce que tu veux. Et ça coïncidait parfaitement avec cette découverte entière de la musique. Il cherchait à trouver ce qui marcherait pour son élève, en fait. Mais il voulait obtenir quelque chose à l'oreille, il voulait obtenir un son. Et donc, il tâtonnait un peu en me disant, voilà, pourquoi je trouve ça. Il voulait aussi plus d'indépendance des voix, que je puisse... Lui qui est un passionné de jazz aussi, et lui, il a ça, vraiment, on voit, il est capable de faire un rythme de basse et... La main droite, elle sera totalement libre à côté. Et ça, moi, je l'ai pas. En tout cas, pas autant. J'ai un peu plus, mais vraiment loin de ce qu'il a. Et donc, ça, c'était aussi un gros combat. Je me souviens de ce moment-là d'arriver à séparer les mains. Là où les pianistes, on passe notre temps à, en général, les rassembler et faire en sorte que la main gauche et la main droite puissent communiquer et suivre le rythme de l'une par rapport à l'autre. Et donc, ça, c'était très déroutant. C'est très déroutant de voir une faille à ce point-là grande que j'arrivais pas sur cette dissociation. Ça a toujours été quelque chose de compliqué. C'était vraiment l'opposé de ce que je faisais avec mes mains. Et donc, ouais, ça, c'était frustrant, surtout à cet âge-là où on a un bagage, on commence à avoir un bagage. Donc, on commence à se dire, c'est comme ça. Il y a une première opinion d'interprétation. On veut se confronter. On dit, moi, je pense comme ça. Mais là, qu'on se retrouve en face à une faille aussi claire et évidente, ouais, c'est dur. C'est dur de se dire que, OK, j'ai un pan entier que je ne comprends pas et que je vois même pas la solution rapide parce que ça me paraît trop étranger. Donc c'était nécessaire, c'était vraiment nécessaire, mais c'était complexe, c'était compliqué.
Mais quand est-ce que c'était le plus saillant, ce manque-là que vous aviez, dans quel genre d'œuvre, dans quel genre de...
Mais justement, c'était dans beaucoup d'œuvres en fait, c'est dans beaucoup d'œuvres où il me montrait qu'en fait il y avait des moments où, voilà, où il fallait que une voix prenne vie indépendamment des autres... Et que les autres doigts devaient surtout pas se mettre au diapason de cette nouvelle voix et devaient rester dans l'ombre et avec même un timing différent, une clarté de la ligne, c'était même des plans sonores, en fait. Et ça, ça me paraissait vraiment dur. Et ce qui était encore plus dur, c'est de me rendre compte que c'est vraiment dans toutes les œuvres quasiment que je jouais, il y avait des moments comme ça. Et donc, je me souviens vraiment d'années où je galérais chez moi. J'avais l'impression que toute la facilité que j'avais au lycée ou avec tous les éloges des amis, les premiers concertos, les premières choses comme ça, je me sentais porté. J'avais l'impression d'avoir trouvé quelque chose et pour me rendre compte vraiment de me faire tirer au sol et là, j'avais beaucoup de moments de doute parce que ça vient aussi avec les moments où on laisse tout le reste en arrière et quand on se plonge juste dans la vie d'un musicien, oui, ça commence à faire peur en fait. Parce que, et oui, cette peur, on est nombreux à la vivre en fait et à l'avoir vécu. Ce moment, on fait le saut de la foi et on se dédie à quelque chose en sachant que c'est très très dur de s'améliorer, de devenir un grand musicien et même de simplement ensuite de percer. Donc c'est toutes les premières questions concrètes de vie en fait qui se posent dans la tête de tous les étudiants et donc là ouais, c'était accompagné aussi vraiment de doutes sur la musique et de plein de choses nouvelles. Et en même temps, tout ça c'était balancé par ce sentiment, ces groupes d'amis avec qui on partageait vraiment tout et on développait la musique de chambre, on créait des premiers groupes, on se chauffait pour essayer de rentrer dans un concours de musique de chambre, on commençait à vivre la musique en tâtonnant. j'ai eu quand même beaucoup de chance là où je sais que oui, il y a une partie qui a été bien plus facile parce que les gens connaissaient mon nom de famille.
Ouais, c'est à double tranchant, même.
C'est à double tranchant, mais au moins, j'avais les premiers concerts. C'est-à-dire que les gens étaient curieux, en tout cas, de m'entendre. Et donc, ils avaient au moins ce réflexe de me donner un premier concert. Donc, grâce à ce nom, effectivement, je sais qu'avec René Martin, m'a mis aux folles journées.
Ouais, dès 2013.
Ouais, voilà. Et ce qui.
T'avais 15 ans.
Voilà, exactement. C'est fou. C'est pas normal, voilà. C'est une chose vraiment pas normale et j'ai senti un moment cette responsabilité de sorte presque de syndrome de l'imposteur, de ok, je vois qu'on me donne plus facilement des choses, donc j'ai intérêt à être vraiment à assurer. Et donc, grâce à ces premiers élans qui venaient de mon nom de famille, j'ai eu la chance que même pendant le déroulé de mes années au CNSM à voilà, commencer à avoir un agent, rencontre, faire des premiers disques avec mon père. Enfin, voilà, une maison de disques, BIS, c'est la fin du conservatoire où j'ai un lien avec cette maison de disques et qui me prennent. Donc, j'ai cette chance énorme d'être armé, quoi. Quand je sors du conservatoire, là où ça peut être un grand vide pour beaucoup,
oui, finalement, les choses se sont un peu tuilées aussi.
Elles se sont beaucoup tuilées. Ouais. Et ça, c'est vraiment la plus grande chance que j'ai, je pense, dans ma vie de musicien, c'est que, bien sûr, comme tout le monde, j'ai eu des moments de doute, mais concrètement, j'ai jamais eu un moment où j'avais rien. Les gens se sont ajoutés pour m'aider au fur et à mesure, au bon moment, et donc j'ai pu quand même avoir toujours quelque chose à me focaliser sur tel concert qui vient, tel disque, tel projet, et donc ça me nourrissait beaucoup.
Vous avez évoqué ces premiers disques chez BIS, en effet, un disque avec votre père. Oui. Votre père qui quand même s'éloignait du violon, qui était devenu beaucoup plus chef d'orchestre. Oh, vous doit une petite cure de jouvence, d'une certaine manière. mais voilà, jouer avec son père, c'est, j'imagine, particulier, peut-être une joie particulière, une manière de se comprendre.
Oui, c'est unique. C'est unique et aujourd'hui, je suis vraiment heureux qu'il ait vraiment activement voulu qu'on fasse des projets ensemble parce que oui, je vois tellement que j'ai pris inconsciemment beaucoup de lui. Donc, on n'est pas du tout la même personne, mais il y a tellement de choses où on n'a pas besoin de mots et il y a tellement de choses où, quand on a travaillé sur les disques 500, j'ai passé mon enfance à entendre ces disques 500 avec orchestre et il y a une vision de ce compositeur que j'ai, oui, pareil, pas inconsciemment par lui. Et donc, c'est quand même un plaisir fou. Et donc, on savait pas combien de temps on allait faire ça. On savait pas, mon père savait pas s'il voulait, à quel point il voulait continuer la musique. D'ailleurs, on a fait un premier disque piano-violon ensemble parce que il pensait à l'époque arrêter totalement le violon. C'était il y a 10 ans. Après, il a quand même repris. Là, il arrête maintenant. On sait pas combien de temps ça va durer. Faisons des choses ensemble. Et je suis content parce que ça dure et on joue encore ensemble, même si on a peu de temps, mais même voilà, le mois prochain, on va faire le deuxième concerto de Brahms à Lausanne. Voilà, c'est des moments merveilleux. Je sais que qui me connaît, qui me comprend, que je sens une sorte de tel pilier quand il est là à gauche avec l'orchestre. Et je sais qu'il travaille. J'aime vraiment comment il travaille aussi avec les orchestres. Je sais que il lâche rien, il veut obtenir des choses. Il a une telle connaissance des cordes que donc voilà, il sait tellement bien les faire travailler. Et voilà, c'est tous les réflexes que et toutes ces phrases que je connais par cœur, toutes ces histoires que je connais par cœur qui ressortent toujours et tout. Mais,
comme des mantras.
Voilà, comme des mantras, comme ces mêmes blagues et tout à l'orchestre. Mais voilà, c'est des choses rassurantes, c'est des choses que j'aime entendre. Et donc oui, quand j'étais petit, plus jeune et qu'on commençait à faire ça, il y avait à la fois le plaisir de jouer et puis peut-être ce truc de ah, c'est compliqué, fils à papa et tout. Et il le savait, il fallait que je fasse mes projets personnels aussi. Mais quand même, voilà, on avait ce plaisir.
France Musique, les grands entretiens d'Alexandre Kantorov.
Quand vous dites avoir pris beaucoup de lui, c'est une question de son, c'est une manière de se donner l'illusion qu'au piano aussi, on peut avoir un legato cantabile, comme si jamais on était violoniste.
Ouais, il y a de ça. Il y a aussi beaucoup la vision de la musique sur scène, en fait, la façon dont je le voyais incarner tellement la musique, où je le voyais faire avec une intensité folle sur l'instrument. Et ce rapport à la scène où vraiment, c'était le moment où il allait donner tout ce qu'il avait avec un lâcher-prise total et avec une sorte de refus de voir les conséquences que ces décisions du moment peuvent apporter. Et du coup, il y avait cette liberté et ce jet d'un trait. Et c'est quelque chose que voilà, j'ai toujours entendu et donc j'ai toujours eu envie d'avoir un peu. Il y a un rapport plus fort, je dirais, avec son instrument, avec au violon ou qu'au piano, parce qu'en plus le piano, une grande partie quand même de ce qu'on fait, c'est s'adapter en quelques heures sur un nouvel instrument à chaque fois. Donc, je dirais qu'on peut moins avoir une sorte de concentration aussi unilatérale et aussi intense sur l'instrument. On doit trouver tellement de moyens détournés d'arriver sur un nouvel instrument ça se disperse un petit peu cette notion-là. Mais voilà, c'était cette fougue, cet instinct, ce ressenti de la scène qui me fascinait chez lui. Et donc, pendant longtemps, je pense, c'est ce que j'essaie de copier au piano. Et ça marche pas, mais c'est pas grave, on apprend. Et en tout cas, ce moment de sortie de conservatoire, c'est le moment où j'ai envie de faire quelque chose qui soit entièrement de moi. Et je vois Lucas Debargue, pile en dernière année de conservatoire, faire son concours Tchaïkovski.
2015, lui.
Ouais, 2015. Peut-être pas la dernière année, mais juste avant. Et je vois ce profil tellement atypique, sorti nulle part, avec une histoire assez dingue où il a arrêté le piano pendant vraiment longtemps, il est retourné, et je vois à quel point il est marquant, je vois à quel point on peut pas ne pas avoir de réaction quand on l'a entendu, et sa sonate de Mettner au concours Tchaïkovski, elle a marqué vraiment les gens, elle est au point de faire un scandale à la fin où, même s'il était quatrième, Gergiev l'avait mis en place d'honneur, elle le faisait jouer, ça avait provoqué des conflits entre des membres du jury, il se passait quelque chose d'incroyable, et je voyais cette sorte d'ovni communiquer et avoir un sens de la communication avec les gens aussi fort, et du coup j'étais vraiment bluffé par ça, et je me suis dit mais qui a pu le former pour faire ça, et du coup je suis tombé sur Rena Cherechevskaya, la dernière professeure que j'ai, parce que je continue à l'avoir encore, et je l'appelle et je lui demande de venir à un de mes concerts. Elle vient et dit tout de suite, comme la gourou mystique, elle me fait « T'as travaillé avec professeur russe, non ?» Je fais « Oui, oui, oui. » Elle fait « Oui, je vois. » Elle me dit que effectivement, parce que je vois que pour un français, il y a des bases que j'ai pas besoin de te donner. Mais après, elle dit « Mais il y a beaucoup de choses, il faut qu'on travaille, qu'est-ce que tu veux faire ?» Et dans ma tête, voilà, je dis concours Tchaïkovski, ouais.
C'est tous les 4 ans.
C'est tous les 4 ans. Elle me dit,
on est en quelle année quand vous l'appelez?
2016. Peut-être, je l'appelle pas longtemps après, donc peut-être encore 2015. Mais je la vois que vers fin 2016, 2017, quelque chose comme ça. De temps à se trouver, parce que elle a l'habitude de prendre quelqu'un et de vraiment le construire entièrement. Et moi, elle me voit avec beaucoup de concerts à l'époque, beaucoup trop pour elle, surtout si je veux préparer ce concours. Du coup, elle est un peu frustrée du fait que je ne sois pas assez là, que je ne peux pas assez prendre le temps de préparer le programme, parce qu'elle me dit voilà, non, c'est pas un concert, c'est pas un concours, c'est pas ça. C'est même si ça donne l'impression, est-ce que c'est techniquement juste, on arrive sur scène et on joue, c'est pas ça. Un moment d'un concours, malheureusement, on nous juge pas sur notre mois de concert, c'est pas un jury comme ça, c'est maintenant à telle heure, à 11h du matin, tu joues un programme que t'as pas entièrement en plus décidé. Tu dois être bon. Peu importe. Tu dois être fatigué, malade, en décalage. Tu dois être bon. Et on a commencé à travailler. Et là, le détail vraiment de l'interprétation, ce que ça peut jouer, là oui, là je l'ai vraiment vu. Parce qu'on a passé par exemple un mois sur les premières notes de Chasse-Neige de Liszt, par exemple, parce que il fallait arriver à trouver tout de suite cette voix avec ce trémolo qui doit rester vraiment dans l'ombre, juste vraiment de l'ordre du brouillard. Il faut le trouver sur plein d'instruments avec des touchés différents et il faut trouver le bon timing. Et ce timing, c'était très important pour elle. C'est pour elle, c'est presque comme si le piano, on a que deux boutons réglables, c'est le type de son à l'attaque et le temps entre les notes. Il y a que ça pour faire de l'émotion parce qu'on n'a pas le legato naturel, on n'a pas le vibrato, on n'a pas ça. Donc, deux paramètres, il faut arriver à avoir le plus de gamme et le plus de possibilités dans ces deux paramètres pour sortir vraiment quelque chose qui puisse toucher les gens. Et donc, voilà, elle commence à avoir cette balance entre personne totalement mystique qui change d'opinion toutes les semaines, qui passe beaucoup de temps à travailler les œuvres avec ses élèves, à vraiment regarder et à elle-même se poser des questions et pas du tout avoir une opinion tranchée. Donc elle, avec tous les paradoxes que ça entraîne, c'est-à-dire on passe une semaine à se plonger dans une idée, elle détruit tout en 10 minutes après en disant pourquoi tu joues comme ça, et mais parce qu'on en a parlé, elle fait oui mais là ça marche pas en fait, et donc on est
ça
jamais...
vous ébranle ça, ce travail que vous commencez avec elle, parce que tout d'un coup c'est tout autre chose.
Bien sûr, ça ébranle parce que on n'a jamais l'impression d'être stable sur ses pieds. Elle crée ce paradoxe, elle montre à quel point le champ de l'interprétation est immense en fait.
Fondation Vuitton, en 2019, Alexandre Kantorov donnait Chasse-Neige de Liszt. C'est ainsi que se referme le troisième épisode des Grands Entretiens avec le pianiste français, une série proposée par Judith Chen, réalisée par Adrien Roch et disponible sur l'application Radio France.
À réécouter sur francemusique.fr.